Chapitre 5. Vers la fin de décembre, Madame Otto Mühlbach reçut de son mari l'invitation de venir le rejoindre avec Florita. « Je suis, écrivait-il, à Lille, fort bien installée dans un appartement que ses propriétaires ont abandonné. Puisque Florita désire rentrer en France, voilà une occasion. J'ai toutes les autorisations nécessaires et je t'envoie un sauf-conduit pour toi et ta nièce qui t'épargnera toute démarche ennuyeuse. » Le premier mouvement de Florita fut de s'écrier « Rentrer dans la France envahie ? Ah non, par exemple !» Pépita déclara « Puisque ton oncle le veut, tu n'as qu'à obéir. Vous ne m'emmènerez toujours pas de force, je pense, ma tante. »« Non, mais je te crois assez raisonnable pour céder tranquillement. » De fait, à la réflexion, Florita décida de ne pas résister à la volonté de son tuteur. Non qu'elle craignît la lutte, mais elle pensait que là-bas, elle trouverait des possibilités de fuite qui n'existaient pas ici. Elle fit donc avec une apparente tranquillité ses préparatifs de départ et quitta sans regret la vieille maison dont les hôtes, depuis le début des hostilités, lui témoignaient une sourde malveillance. Pour gagner l'île, Madame Mühlbach et sa nièce passèrent par la Belgique. Florita, le cœur serré, l'âme indignée, vit des cités dévastées, incendiées, des villages en ruines, et partout des soldats allemands, les soldats de la Kultur. En France aussi, elle les revit. Ils déambulaient dans les rues de Lille quand, un soir pluvieux et froid, les deux femmes arrivèrent dans la grande cité du Nord. Otto Mühlbach les attendait à la gare. Il voulut embrasser Florita, comme il en avait coutume, mais la jeune fille se recula vivement et dit, avec un fier regard, « Non, une Française ne se laisse pas maintenant embrasser par un Allemand, fut-il son oncle. Il y a trop de sang entre nous. » Un éclair de colère passa dans le regard d'Otto. Mais se dominant, il dit, avec un sourire sardonique, « Bah, tu t'y feras, ma petite. Tu oublieras tout cela quelques jours. Oublier ? Ah, n'y comptez pas. » Il eut un haussement d'épaule et prit le bras de sa femme pour l'emmener vers la voiture qu'il avait retenue. Florita les suivit. Elle éprouvait un sentiment étrange en se retrouvant dans cette ville française où dominait l'ennemi. Sa douleur se mêlait d'une sorte d'allégresse, parce que, après des mois d'exil, elle respirait enfin l'air de la patrie, l'air de la douce France. Au moment où, sur l'invitation de Mühlbach, elle allait prendre place dans la voiture, près de sa tante, une voix masculine dit derrière elle « Ah, mademoiselle de Valser, quelle bonne surprise !» Elle se détourna vivement, et se trouva en face d'un lieutenant des hussards de la mort, un bel homme aux yeux durs, qu'elle reconnut aussitôt. C'était le baron de Reichensfeld. Florita eut un mouvement de recul, tandis qu'une rougeur d'indignation montait à ses joues. L'officier se mit à rire avec ironie. « Vous ne vous attendiez pas à me retrouver ici ?» Reprenant aussitôt sa présence d'esprit, Florita dit avec une hauteur dédaigneuse « Vous auriez pu vous dispenser de m'aborder, monsieur, car vous pensez bien que je n'ai pu conserver de vous que le plus mauvais souvenir. Allons donc, cela changera, charmante Florita, plus charmante que jamais en vérité. Vous avez de si beaux yeux qu'il m'est impossible de vous garder rancune, quoique vous m'ayez mis assez mal en point, naguère. Demain je pars pour le front, mais si, comme je l'espère bien, j'en reviens cette fois encore, nous causerons, et je vous prouverai qu'un baron prussien, officier du Kaiser, vaut mieux qu'un marquis breton, officier de la République. » Sans même daigner riposter, Florita lui tourna le dos et monta près de sa tante. Reichensfeld lui jeta un regard de colère. Puis, tendant la main à Mühlbach, il dit « À bientôt !» et s'éloigna, la mine arrogante, en faisant cliqueter son sabre. Madame Mühlbach dit, avec quelque contrariété, quand son mari fut assis en face d'elle, « Tu ne m'avais pas appris que le baron de Reichensfeld était ici. » Il y est de passage seulement. Blessé le mois dernier, légèrement, il rejoint demain son corps. Et il conclut, avec un coup d'œil railleur vers Florita, « Cette jeune personne en sera donc délivrée. Peut-être pour toujours, car il peut y rester cette fois. » Florita dit en le regardant dans les yeux, « Vous semblez en très bons termes avec lui. Cependant, après l'agression dont je fus victime, une autre attitude serait de mise à l'égard de cet homme qui n'est qu'un misérable, tout baron prussien qu'il soit. Et votre devoir aurait été de l'écarter quand il osait s'adresser à moi avec cette insolence. » Otto riposta sans se démonter. « Ma chère enfant, Monsieur de Reichensfeld et moi sommes d'anciennes connaissances, et il ne me conviendrait pas du tout de me brouiller avec lui au sujet de cette petite histoire dont tu fus l'héroïne. D'ailleurs, et sans vouloir approuver sa conduite en cette circonstance, il faut reconnaître que sa recherche est extrêmement flatteuse pour toi, car il est un fort grand seigneur. » Elle se redressa, les yeux étincelants. « Votre baron prussien, je le méprise, comme il mérite de l'être, et je le lui dirai s'il ose encore se présenter devant moi. » Mulbar eut un sourire sarcastique. « Bien, bien, tu t'arrangeras, ma petite. Moi, je te le répète, je ne veux pas me brouiller avec lui. » Le cœur de Florita se serra. Elle comprenait. Oui, un voile tout à coup se levait, lui montrant l'affreuse machination. Otto Mulbar était le complice de Reichensfeld. Peut-être dès l'autre fois, qui sait. En tout cas maintenant. Et il ne ferait rien pour défendre sa nièce et pupille contre les entreprises du baron, en admettant même qu'il ne lui donnât pas son aide. Florita jeta vers sa tante un coup d'œil de détresse. Madame Mulbar détournait les yeux et semblait tout absorbée par le va-et-vient de la rue très commerçante où passait en ce moment la voiture. La jeune fille demanda d'un ton frémissant. « Et vous, ma tante, vous admettez cela? Vous laisserez cet homme m'insulter ?» Pépita, en tournant à peine son visage fatigué, dit, avec un accent d'impatience et de lassitude, « Voyons, n'exagère pas, mon enfant. Ne prends pas tout au tragique. Ton oncle plaisante en ce moment. Quant au baron, il n'est pas prêt de revenir, vraisemblablement, et tu sais bien que je ne lui permettrai pas de te manquer de respect. » Florita dit froidement, « Je le pense bien. » Puis elle se tut en s'enfonçant dans la voiture, en baissant les paupières pour ne pas voir le tranquille et ironique visage de Mulbar, qui maintenant lui faisait horreur. Cette rencontre avec le baron, la révélation qu'elle avait eue au sujet de son oncle, l'étrange attitude de Pépita, tout cela avait bouleversé la jeune fille. Mais une autre épreuve lui était encore réservée. L'appartement, occupé par Mulbart, avait été quitté précipitamment par ses habitants au moment de l'invasion. Des officiers allemands s'y étaient succédés depuis lors. Chacun y avait pris quelque objet à sa convenance et plus ou moins détérioré l'ameublement. Cependant, celui-ci, dans son ensemble, restait élégant, confortable, d'autant plus qu'Otto y avait fait faire des réparations nécessaires. En visitant, à la suite de son oncle et de sa tante, ce logis abandonné, Florita se sentait pénétrée d'une singulière souffrance. Elle vivait les heures d'angoisse par lesquelles avaient passé les habitants légitimes. Elle les voyait parcourant une dernière fois leur demeure, se demandant s'ils la reverraient jamais, abandonnant des souvenirs chers qui allaient devenir la proie des officiers du Kaiser. Et elle sentait comme une honte l'envahir en se voyant là, en regardant Otto qui détaillait à sa femme les commodités de l'appartement, les soins apportés à l'installation. C'étaient des gens de goût. Vois, le salon est très beau. Malheureusement, ces messieurs ont sali le tapis qu'on a dû enlever. Il y avait aussi, paraît-il, un fort beau lustre électrique. Mais un jeune prince bavarois l'a cassé un soir où il était trop joyeux. Ici, Florita, ce sera ta chambre. Il ouvrit une porte et s'effaça, en invitant du geste sa nièce à entrer. Une chambre de jeune fille, très élégante. Sur la cheminée, une vierge de marbre se dressait, entre deux flambeaux aux fines ciselures. Dans un cadre, contre le mur, souriait une vieille dame aux cheveux blancs, au doux regard indulgent. Otto expliqua. « J'ai fait réparer à peu près les rideaux, qui étaient fort abîmés. Les meubles ont eu aussi quelques atouts. » Et le prince de Bavière, trouvant à son gré une fort jolie petite commode ancienne, l'a fait emporter. Mais telle quelle, cette chambre est encore fort agréable, et je crois que tu t'y plairas, Florita. » Elle se tourna vers lui, un peu pâle, le regard méprisant. « Pensez-vous donc que je pourrais dormir ici, en songeant à celle qui a fui devant votre armée de bandits? Ah non, non !» Une lueur mauvaise traversa les prunelles d'Otto. Il dit d'un ton menaçant. « Prends garde à toi. Des paroles telles que celles-là, si elles étaient rapportées à nos chefs, suffiraient pour te faire fusiller. En effet, un crime de plus, cela ne les gênerait guère. Eh bien, allez les leur dire. Allez !» Elle le défiait, superbe d'audace, devenue tout à coup une autre femme, sous l'empire de l'indignation, du mépris et de son patriotisme frémissant. Il leva les épaules en ricanant et sortit, emmenant sa femme. Florita se trouva seule dans la jolie chambre où il lui semblait que flottait l'ombre de la jeune fille qui en était partie précipitamment. Elle se laissa tomber sur un siège, se prit le front à deux mains. La souffrance, l'angoisse, submergeaient son âme. Un automulbar tout nouveau s'était fait connaître à elle, un ennemi lâche, rusé, dépourvu de scrupules. Il avait des droits sur elle comme tuteur, et Florita savait ne pouvoir guère compter sur l'aide de sa tante, car elle s'était bien aperçue que celle-ci résistait difficilement à l'influence de Mulbar. Donc, elle serait à peu près seule pour se défendre, et il y avait cet homme, ce Reichensfeld, plus odieux que jamais depuis qu'elle l'avait vu en officier prussien. Elle frissonna, en murmurant dans un élan de détresse. « Oh, mon Dieu, secourez-moi !» Puis elle se redressa, reprise par son énergie coutumière. Pas plus maintenant qu'auparavant, elle ne fléchirait, elle ne se découragerait. Quels que fussent les froissements qu'il lui faudrait supporter, les angoisses de toutes sortes qui déchireraient son cœur, elle éprouverait malgré tout une consolation de se trouver sur le sol de France, de se sentir moins loin des êtres chers. Et peut-être ici, lui serait-il plus facile de leur faire parvenir de ses nouvelles. Anna, la femme de chambre, frappa à la porte. Elle apportait la malle de la jeune fille, avec l'aide de l'ordonnance d'Otto. Puis elle offrit ses services à Florita. Mais la jeune fille refusa, en déclarant qu'elle n'avait besoin de personne. Elle savait, depuis peu, que cette soi-disant Suissesse était originaire de Francfort, découverte qui lui avait enlevé toute sympathie à son égard. Elle ouvrit sa malle et en sortit seulement quelques objets, car elle ne voulait rien déranger dans l'armoire. Tout à l'heure, en ouvrant l'un des battants, elle avait vu les planches à demi dévalisées. Une partie du linge avait été emportée, mais il en restait encore, et aussi quelques menus objets, des voilettes, des gants, des rubans, rejetés là en désordre. Un léger parfum subsistait, et Florita avait refermé le battant en songeant. J'aime mieux laisser tout dans la malle plutôt que de me servir de son armoire. Ce fut une dure épreuve pour Florita que ce séjour de Lille. La vue des troupes allemandes lui serrait le cœur chaque fois qu'elle sortait. C'étaient ces soldats qui avaient massacré ses frères, pillé, dévasté, assassiné. Qui sait, l'un de ceux-là peut-être avait tué Alain. À cette pensée, elle sentait son cœur bondir et ses jambes tremblaient sous elle. Mais elle détestait surtout les officiers arrogants qui la dévisageaient insolemment et exprimaient tout haut leur admiration sur son passage. Elle détournait les yeux, hautaine, méprisante. Et un jour sa petite main nerveuse gifla en pleine rue un élégant lieutenant de la garde qui prétendait l'obliger à l'écouter. De là, appel à la commandante Tour, où elle eut la crâne attitude et dut riposter fièrement à une déclaration enflammée du général qui l'interrogeait et que sa beauté frappait du coup de foudre. Alors, fureur de l'important personnage, Florita ne se serait pas tirée facilement de là sans l'intervention de Monsieur Mulbar, qui, décidément, avait de bien puissantes relations, car le général, en maugréant, relâcha la délinquante. Après quoi, Otto déclara en ramenant sa nièce au logis, « C'est bon pour une fois, mais ne t'avise pas de recommencer, car ce n'est pas une manière de traiter les officiers allemands. » Elle répliqua prestement, « C'est pourtant ainsi que je les traiterai toujours, dès qu'ils se montreront insolents, et votre Reichensfeld lui-même, tout le premier. » Mulbar lui lança un mauvais regard en murmurant, « Ah, nous verrons !» Un mois après son arrivée à Lille, Florita n'avait pas encore trouvé la possibilité de correspondre avec Madame de Pinvalas. Comme sa tante était sans cesse souffrante, elle sortait accompagnée d'Anna. On ne la laissait pas même aller seule à l'église, pourtant assez proche. « Ton oncle ne le veut pas, » disait Pipita. « Il trouve que tu es trop jeune encore, surtout étant donné la présence des troupes. Mais prends Anna tant que tu voudras. » Cela n'arrangeait guère Florita, ainsi placée sous la surveillance continuelle de la femme de chambre. Néanmoins, elle réussit à mettre son projet à exécution vers le milieu de février, avec l'aide d'un des prêtres de la cathédrale. Un billet, adressé à Madame de Pinvalas, fut remis par la jeune fille à cet ecclésiastique hors de la vue d'Anna. Par des voies détournées, il parviendrait peut-être jusqu'à Runesto et irait informer la bonne marquise du sort de sa future petite fille. La vieille dame en ferait alors part à Alain si, point d'interrogation terrible, celui-ci vivait encore. Cette douloureuse incertitude était une des plus dures épreuves de Florita. Quand, dans sa chambre, elle contemplait la photographie de son fiancé, qu'elle portait toujours sur elle, Son cœur se gonflait d'angoisse, les larmes venaient à ses yeux. Alain, son bien-aimé Alain, peut-être reposait-il dans la terre d'un champ de bataille, ou bien au fond d'une de ces tranchées dont les revues illustrées donnaient les photographies. Elle n'avait même pas la consolation de trouver un peu de soutien et de réconfort près de sa tante. Pépita semblait très frappée par les événements, et sa santé s'altérait chaque jour. Elle devenait morne, taciturne, refusait de sortir, en disant qu'elle était trop lasse, et semblait se désintéresser de sa nièce. Elle parlait rarement de la guerre, et c'était toujours pour dire avec une sorte d'irritation « Mais quand donc cela finira-t-il » Florita lui demanda un jour « Enfin, ma tante, j'espère que vous n'approuvez pas les injustices et les crimes des compatriotes de votre mari. » Elle répondit avec impatience « Je ne juge personne. J'ignore ce que les Français ont fait de leur côté. » Florita s'écria, emportée par l'indignation « En tout cas, vous avez pu voir un peu de ce que les Allemands ont fait en Belgique et dans ce pays-ci. Vous savez aussi que, pour eux, la parole donnée et les signatures mises au bas d'un traité, cela ne compte pas. » Madame Mulbar l'interrompit d'un geste irrité. « Oh, je t'en prie, fais-moi grâce de ces discussions. Otto d'un côté, toi de l'autre, je suis trop fatiguée pour cela. Mieux vaut que je reste impartiale. » Florita riposta. « Il y a des cas où l'impartialité est une injustice, ma tante. » Pépita ne parut pas entendre, et sa nièce la quitta, indignée, douloureusement saisie aussi par cette nouvelle et profonde désillusion au sujet des idées de Madame Mulbar et de l'affection dont elle se croyait l'objet de sa part. Elle avait du moins la patriotique consolation de deviner, sous les explications plus ou moins exactes de la presse teutonne, que la France s'était redressée pour s'engager dans l'effort gigantesque nécessité par son manque de préparation. Elle eut un écho des sanglants mécomptes allemands sur l'Isère, et entendit au passage des prisonniers anglais les furieuses insultes qui prouvaient combien, profondément, la participation de nos amis d'outre-Manche à la guerre avait dérangé les plans ennemis. Agenouillée dans l'ombre d'une nef d'église, oubliant la présence d'Anna, chaperon vigilant, elle remerciait Dieu et priait pour que la France fût délivrée, pour qu'Alain fût sauvé, et qu'elle-même fût délivrée de la menace que représentait M. de Reichensfeld. Or, un après-midi, Mulbar entra chez sa femme qui, seule dans sa chambre, tricotait languissamment. Il s'assit près d'elle en annonçant « J'ai deux nouvelles à t'apprendre. » Elle dit avec une sorte d'indifférence « Ah, lesquelles ?»« Voici une lettre d'Ulrich. » Entre parenthèses, il est furieux de l'entêtement de Gertrude à ne pas rentrer en France. Il m'apprend la mort du comte de Ronchet, tué en novembre dans les Vosges. Vraiment, ce pauvre garçon, voilons donc Hilda veuve? Oui, et comme elle a eu la précaution de lui faire faire un testament en sa faveur, elle se trouve nantie d'une jolie fortune. Elle est toujours à Paris? Toujours. Infirmière dans l'hôpital qu'elle a installé, fort appréciée de tous. Elle continue de nous rendre d'immenses services, car de par sa situation, elle n'inspire aucun soupçon. Elle arrive à savoir tout, à nous prévenir de tout ce qui se trame dans les cercles gouvernementaux. Puis, près des blessés, elle fait discrètement sa petite propagande pour semer le découragement. Pépita laissa glisser les aiguilles qu'elle avait continué jusque-là de faire marcher, et dit d'un ton hésitant. « C'est un vilain rôle que celui qu'elle remplit là, oui, même près d'ennemis. En voilà une idée, j'appelle cela, moi, un rôle glorieux. » Pépita ne répliqua pas, et reprit ses aiguilles d'une main un peu agitée. Otto continua. « Maintenant, l'autre nouvelle. Le baron de Reichensfeld a été blessé très grièvement. Le baron de Reichensfeld, comment l'as-tu su? Il me l'a fait écrire. On l'a transporté au château de Vanel, où il a dû subir l'amputation immédiate d'une jambe. En outre, il est atteint à l'œil assez gravement, paraît-il. Bref, il semble fort endommagé, et il me demande de l'aller voir. Ce qui est très facile, Vanel se trouvant non loin d'ici. » Pépita murmura. « Vanel, le château du comte de Ronchet ?»« Oui, et maintenant celui d'Hilda. Celle-ci, comme je te l'ai dit, a obtenu par mon intermédiaire que Vanel serve seulement d'ambulance de passage. Un état-major y a logé quelques jours au début de l'invasion, mais prévenu qu'il se trouvait dans la demeure d'une bonne Allemande, fort bien notée dans les hautes sphères gouvernementales, les officiers ont apporté tous leurs soins à ne rien détériorer. Je le sais, ayant été moi-même visiter le château pour pouvoir en donner des nouvelles à Hilda, et j'ai constaté aussi que les dépôts d'essence, de poudre et autres utilités emmagasinées là avant la guerre étaient maintenant vides. Ces petites réserves éparses sur le territoire à conquérir, par les soins de bons agents dans le genre d'Hilda, ont grandement servi à nos armées, comme me l'a certifié dernièrement un de nos généraux. Donc, Pépita, demain, je pars à Vanel, voir ce pauvre Reichensfeld. Ne parle pas de lui à Florita pour le moment. Nous verrons ce qu'il conviendra de dire un de ces jours. Elle sera si contente, cette petite, que cela m'agacera. Madame Mulbar dit avec indifférence. Bien. Dois-je lui cacher aussi la mort de monsieur de Ronchet? Cela n'a pas d'importance. Pourtant mieux vaut ne rien lui en dire, car il est préférable qu'elle ignore qu'on peut correspondre avec la France. Pépita leva les épaules en murmurant. Avec cela, qu'elle ne doit pas le savoir. Otto regarda sa femme dans les yeux. Tu le lui as dit? Tu as peut-être favorisé une correspondance. Elle se redressa sur la chaise longue, où elle restait presque constamment étendue maintenant. Cela non. Au fond du cœur, je n'admets pas tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, Otto. Mais je t'ai promis de ne pas encourager les idées de Florita, de ne pas m'opposer à tes essais de germanisation sur elle, bien que je les juge si parfaitement inutiles. J'ai tenu ma promesse, quoi qu'il m'en coûtât. Oui, vraiment, je souffre beaucoup. J'ai l'impression que tu m'aveugles, Otto, que je vais à un abîme en y entraînant cet enfant. Allons, pas de sottises, Pépita. J'ai fait de toi une Allemande passionnée pour le triomphe de notre patrie. Ne faiblis pas au moment où le triomphe est proche, où nous allons commander au monde. Elle dit en frissonnant. Oui, mais il y a trop de sang, trop de ruines, trop d'horreurs. Ne crois-tu pas que la malédiction divine tombera sur l'Allemagne, sur nous tous, un jour prochain? Il lui saisit l'épaule, de sa main devenue très dure tout à coup. Folle, folle! Où as-tu été chercher des idées pareilles? Mais tu as la fièvre, je le vois à tes yeux. Cela m'explique de pareils propos qui ne devraient jamais se trouver sur les lèvres d'une vraie Allemande. Calme-toi, rassure-toi, nous sommes les sauveurs du monde, les régénérateurs de l'humanité, les élus du Seigneur pour faire régner sur le monde la plus haute justice et la paix triomphante. Il se redressa, gonflé de son orgueil pangermaniste. Orgueil infernal, devant lequel plus rien ne compte, et qui veut ignorer le sens des mots honneur, morale, pitié, pour se ruer à la curée des peuples qui lui paraissent faibles ou timides. Mais Pépita, naguère toute pénétrée de cette même fièvre satanique, eut un frémissement d'angoisse et ferma les yeux en disant « Nous verrons ». Otto lui jeta un regard mécontent, un peu inquiet aussi, et sortit, le front soucieux.